Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris? Allons dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème effervescent, voire agitateur. Tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming, news, dans chaque épisode de Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du podcasteur ou de la podcasteuse, son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités et développe sa communauté autour de ce format lors d'un échange authentique et simple. Offcast est un format imaginé par Raphaël Grieco et produit par Podcast Makers, la première communauté francophone de podcasteurs indépendants. Et pour ma part, je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice du podcast Esperluette. Mais c'est quoi Esperluette ? Esperluette est un podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Mais pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour être inspiré par les entreprises, les créations artistiques ou associatives qui y sont présentées. Sur Esperluette, on partage surtout des idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Pour cet épisode de Offcast, j'ai eu envie de partir à l'étranger, de voyager, grâce au podcast Expat Heroes avec Christina Philippe Arrojo. Bonne écoute! Bonjour Christina, bienvenue dans cet épisode d'Offcast. Je viens de présenter Esperluette, qui est un podcast hyper local, puisque basé sur mon territoire, le Vaucluse. Toi, à l'inverse, tu fais plutôt le tour du monde à chaque épisode. Peux-tu te présenter et présenter Expat Heroes?
Oui, bonjour Marie-Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Christina. Je produis le podcast Expat Heroes depuis février 2017, donc bientôt 4 ans. Je vis en Angleterre, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai créé ce podcast pour donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde parce que moi-même, je suis expatriée depuis 11 ans. Donc, je suis en ce moment en Angleterre, mais j'ai vécu aussi en Suède et en Espagne. Donc, j'en connais un rayon sur l'expatriation, mais pour autant, j'ai été confrontée un peu aux clichés qu'on se fait de l'expat. Donc, tu les connais, hein, l'expat est riche, surtout la femme qui suit, eh bien, forcément, elle est au bord de la piscine et elle passe son temps à prendre des cafés et à se faire des manucures. Et en fait, c'est pas ça du tout.
C'est pas le cas.
Et non, pas du tout. Donc, moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés, de mettre en avant au départ, parce qu'ensuite, le contenu du podcast a un peu changé, mais de mettre en avant au départ les conjoints suiveurs, les conjoints accompagnateurs qui, justement, profitaient de cette expatriation pour se réinventer. Et puis, par la suite, c'est mettre en avant tous les types de profils d'expatriés à travers le monde. Parce que quand j'ai vécu en Suède, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui étaient, par exemple, en VIE ou qui avaient suivi leur amoureux ou leur amoureuse à l'étranger. Donc, on est vraiment dans des types de profils qui sont différents du conjoint accompagnateur. Et le nom Expat Heroes, en fait, c'était vraiment pour retirer le masque qu'on collait aux expats, donc ces fameux clichés-là. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes ces années d'expatriation qu'on gagnait un peu des super pouvoirs. Alors, je suis un peu tordue, hein, peut-être les gens qui écoutent doivent se dire, mais elle est... qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner? En fait, j'ai 2 garçons et quand je cherchais le nom du podcast, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est... mes gamins jouaient aux super-héros et je me suis dit, oui, c'est ça. Expatriation, c'est un défi qu'on relève et on surmonte des obstacles, on sort de notre zone de confort pour s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, parce qu'on a des grands moments de solitude quand on se retrouve au milieu de Suédois et qu'on ne comprend pas un mot de ce qu'ils nous racontent et qu'on essaye de se débrouiller. Donc, l'idée, c'était ça, c'est de se dire, on acquiert des super-pouvoirs en expatriation. Et c'est pour ça que j'ai donné aussi le nom à ce podcast Expat Heroes. Donc, ce sont des gens qui ont relevé les défis de l'expatriation, comment ils ont surmonté ces obstacles qu'ils ont rencontrés, quels projets ils ont accomplis. Et au final, ils en sont ressortis, grandis, même si plus tard, ils pensent à rentrer en France. Voilà un peu.
Et alors, pourquoi avoir choisi le média podcast? Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu écoutais, toi, tes podcasts déjà à la base ou comment t'es arrivée au podcast?
Oui, j'en écoute depuis février 2017. J'étais le premier podcast dédié à l'expatriation. Il y en avait sur le voyage, bien sûr. Et puis, le podcast La Poudre est apparu en octobre 2016, si je me souviens bien. Donc, ça venait vraiment d'apparaître. Donc, moi, ce n'était pas pour suivre une tendance. J'en écoutais depuis longtemps, alors, surtout des replays de radio. Et puis j'étais responsable de com dans une autre vie et je gérais en fait le projet de podcast interne de l'entreprise. Donc j'étais en relation avec une agence qui s'occupait elle du montage et moi je m'occupais plutôt du calendrier éditorial en interne et puis de mettre en relation l'agence avec les personnes à interviewer au sein de l'entreprise. Donc moi, ça s'est vraiment imposé à moi, le média podcast. Après avoir géré ce projet en entreprise, je me suis dit, mais ça n'existe pas, c'est un besoin fort, j'ai envie de faire passer ce message, comme quoi la réalité de l'expatriation n'est pas celle qu'on voit ou qu'on s'imagine, en tout cas qu'on voit dans les sites internet actuels. Et voilà, et ça fait depuis bientôt 4 ans que je le produis, que je l'anime. Et ouais, c'est un plaisir renouvelé chaque année.
Mais justement, quand on parle de voyage, expatriation, on peut s'imaginer un média avec des belles images, de la vidéo. Toi, tu as choisi l'audio. Donc, c'était un défi supplémentaire parce que ça voulait dire sortir de ça, c'est-à-dire des blogs où on a l'habitude effectivement de voir des beaux couchers de soleil et des images magnifiques au bout du monde. Pourquoi ne pas avoir essayé ou bien d'avoir fait un blog à côté ou quelque chose comme ça? Tu as voulu vraiment te focaliser sur l'audio?
Parce que y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que y a vraiment une recherche d'authenticité, quoi, et de simplicité. C'est vrai que on est bombardé d'images, donc d'images sur les réseaux sociaux, mais aussi des vidéos. Et je trouve que, et même avec le blog, dans l'écrit, on peaufine, quoi, on reformule, on essaye d'illustrer pour rendre ça attrayant. Et puis la vidéo, c'est pareil, on met en scène. Et dans l'audio, je trouve que tu mens pas. T'as une émotion qui est vraie, qui est brute. Alors, tu peux ajouter, bien sûr, des effets sonores, mais c'est pour mieux mettre en avant, justement, ce caractère authentique. Et dans le témoignage, les gens, ils sont vraiment attentifs. Hein, on le sait, l'attention, elle est... 80% des podcasts téléchargés sont écoutés jusqu'au bout. C'est pas pour rien, c'est que les gens sont dans leur bulle, on développe leur imaginaire. Et moi, souvent, les gens me disaient, quand on écoute ton podcast, sinon on a l'impression que tu es dans le salon avec nous, quoi. Et donc, voilà, ce contact qu'on est en train un petit peu de perdre, puis la Covid-19 nous aide pas, la pandémie, eh bien, on essaye de le retrouver, cette connexion-là, avec l'humain, grâce à l'audio, je trouve.
Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, on m'a dit aussi dans mes émissions, des fois, quand vous êtes en train d'échanger entre vous, j'ai envie d'intervenir, alors je réponds, alors que je ne suis pas avec
vous. Ouais, c'est ça.
Donc, je comprends bien. Et alors, comment tu fais pour trouver tes invités? Parce que moi, c'est des gens que je connais ou que j'ai rencontrés en direct. Toi, évidemment, je pense, tu ne fais pas de voyage à chaque épisode. Donc, comment tu fais pour trouver tes idées, tes invités?
Au départ, j'ai interviewé les gens que j'avais rencontrés en expatriation qui m'avaient marqué. Je me disais, je vais les interviewer, ils vont vraiment donner une dose d'inspiration aux gens et nous faire voyager et nous donner envie d'aller plus loin encore en expatriation. Donc, c'est d'abord des gens que j'ai rencontrés. Et puis, ensuite, j'ai repéré des personnes, surtout des personnalités dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Parce que les francophones expatriés sont extrêmement connectés. C'est grâce au groupe Facebook, nous, qu'on arrive à rentrer en contact et à s'entraider. Sans les réseaux sociaux, on est encore plus isolés que jamais, je dirais. Donc, tout se passe vraiment sur les réseaux sociaux. C'est là où je vais repérer, entre guillemets, ça fait un peu repérer sa proie, mais non.
C'est un peu ça.
je vais les contacter. Je vais les contacter et s'ils veulent participer, et voilà, avec grand plaisir, on prend contact. Et au fur et à mesure, eh bien, j'étais un peu prise au piège finalement de mon succès parce que Alors, succès relatif, hein, j'ai de 3 à 5 000 téléchargements par mois. Donc, si on compare bien sûr avec les grands podcasteurs, c'est rien du tout. Mais pour moi, dans une niche sur l'expatriation, c'est énormément. Et j'ai là, figure-toi, 9 épisodes à l'avance.
Ah oui.
Qui sont enregistrés. Et j'ai une liste, tu vois, j'ai un calepin. J'ai tous mes invités qui m'ont... des futurs invités qui m'ont contacté, que j'ai rencontré au préalable et que, ouais, et que je vais enregistrer bientôt, quoi. Mais donc, 4 ans quand même pour arriver jusque-là, avoir à gérer des listes et avoir l'embarras du choix. C'est
combien
génial.
D'épisodes tu as déjà publié?
J'ai publié hier le 72e épisode. Mm. Ouais.
Tu publies tous les...
Tous les 15 jours. Ouais.
Et c'est quoi les critères en fait pour toi de... c'est... Si la personne contacte, tu te dis allez, c'est bon, je l'interroge, ou est-ce que tu as des critères pour définir tes invités?
Je t'avoue que c'est vraiment au feeling, quoi. C'est que je me suis rendu compte, tu vois, au fur et à mesure, que les gens, quand même, ils cherchaient à faire leur pub. Parce que c'est tellement difficile à l'étranger de se faire connaître qu'ils passaient par le podcast pour ça. Donc moi, je tenais à ce qu'ils partagent vraiment, qu'ils enlèvent le masque, quoi, qu'ils brisent un peu l'armure. Et ça, c'est formidable. Et tu le sens. Parce que figure-toi qu'il y a un décalage entre quand je rencontre la personne, donc on discute, ensuite je lui envoie les questions, on a le rendez-vous d'enregistrement, on enregistre. Et toujours, j'ai une petite confidence, une petite information que j'ignorais en fait et qui passe à l'antenne. Et ça, c'est... Ouais, c'est magique, quoi. Ça me fait voyager sans bouger de chez moi.
C'est pas mal. Donc, t'envoies tes questions avant, en fait.
Ouais. Alors, je sais que c'est assez polémique. Il y en a qui disent non, mais après, tu perds du côté spontané. Alors, ça reste une trame, hein. J'ai 5 à 10 questions, on va dire, en fonction de mon inspiration et en fonction de l'entretien que j'ai eu avec la personne. Je me suis posé la question sur comment améliorer le process. Est-ce que je ne ferais pas des questions standards? Mais c'est tellement ennuyeux. Enfin, je veux dire, chaque histoire, justement, est différente. Et c'est ça qui est riche dans le podcast. C'est que si je posais les questions les mêmes à tout le monde, ben, ça perdrait de son intérêt. Et là, c'est vraiment une personnalité, un parcours que je mets en avant. Et ça ne peut pas être les mêmes questions, ce n'est pas possible.
Puis ça t'évite d'avoir de la routine aussi. Hein.
Exactement, ouais. Ouais.
Parce que 4 ans, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution pour toi? Qu'est-ce que tu vois comme évolution depuis le début dans tes enregistrements, dans ta manière de faire
Beaucoup plus d'aisance, ça c'est sûr. Beaucoup plus d'aisance dans la manière de mener les interviews. Une plus grande confiance aussi sur les extraits que je vais partager sur les réseaux sociaux. Avant, je partageais des pavés. Et maintenant, j'ai compris que il fallait juste trouver la petite phrase qui allait donner envie à la personne de cliquer pour aller écouter. C'est vraiment ça. Et puis, le processus de production. Alors ça, les retouches audio, avant, j'y passais peut-être 10 heures. Et maintenant, je suis à 3 à 5 heures, on va dire. Parce que tu sais...
Tu montes beaucoup ou...
C'est plutôt... En fait, au moment où je fais les retouches, moi, je prends des notes. Je prends des notes pour la page web de mon épisode, pour les citations que je vais partager sur les réseaux sociaux. Donc... Non, le montage est plutôt basique, hein. C'est-à-dire que j'ai mon intro, j'ai mon outro, j'ai mon jingle. Je vais peut-être passer une petite musique parce que dans mon podcast, il y a une partie sur le projet de la personne, la partie réalisation personnelle et professionnelle, et la deuxième partie sur comment tu t'es adapté, donc là, sur les différences culturelles à l'étranger. Donc, quand j'ai une transition sur ces deux parties, là, je vais mettre une petite musique, mais montage est vraiment très basique. Très basique.
Oui, ce qu'on entend au final, c'est vraiment l'échange en entier, quasiment, de ce que tu as eu avec la personne interviewée.
Oui. Alors, j'enlève les E et les tics de langage. En fait, je me mets à la place de mon auditeur en me disant, bon, est-ce que je souris? Oui. c'est bien. Est-ce que là, ça commence à être énervant, ces tics de langage? Et là, je vais en supprimer quelques-uns. Mais tu sais comme moi que le silence aussi a une valeur. Et donc, je n'assure pas mon montage.
Et au niveau technique, si on reste dans la partie vraiment pratique du podcast, là, justement, on enregistre via Zoom.
Oui.
Parce que toi, tu as cette problématique-là, c'est la distance, le fait de ne pas être en face de la personne et en plus de t'assurer que la personne a une assez bonne connexion Internet pour avoir un son de qualité.
Oui.
Ça se gère? Comment ça se gère, justement?
En fait, j'ai appris en faisant parce qu'au départ, donc, j'enregistrais sur Skype. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des pays où Skype ne passait pas du tout. Par exemple, okay. Le Qatar. Donc là, c'est là où j'ai commencé à tester Zoom. Et puis, il y a eu un jour où il y a une personne qui n'avait pas envie, en fait, d'installer Zoom. C'était trop compliqué. Pas envie, pas Skype. Et là, j'ai testé Zencastr, que vous connaissez peut-être, où là, c'est que l'audio, on n'a pas la vidéo. Donc, j'ai toujours ces trois solutions. Si jamais il y en a une qui ne marche pas. Mais encore, l'interview que je viens diffuser avec Georgina Siaba, qui a fondé une association pour créer des bibliothèques scolaires en Afrique. Alors, elle était en Afrique quand on a prévu notre enregistrement et ça passait pas. Et on a essayé les trois solutions. Il n'y avait pas moyen. J'ai dit, écoute, tu rentres à Paris quand? On réenregistre. Parce que là, c'est pas possible. Ouais, non, mais ça arrive.
Oui, parce que toi, c'est vraiment un critère, quoi. La connexion Internet, c'est hyper important.
Et le micro. Et voilà. Et merci les iPhones parce que ça, c'est surprenant. Mais les oreilles iPhone, ça fonctionne très bien pour le montage.
Oui,
parce que les voix, les gens en fait me voient là tu me vois, les personnes qui nous écoutent ne nous voient pas bien sûr, mais j'ai donc le casque, un super micro parce que j'ai investi avec le temps sur un bon micro, j'ai mon bras le bras qui tient le micro, voilà, et c'est super impressionnant pour les gens. Ils se disent, oulala, est-ce que je vais devoir avoir tout ça? Je dis non, t'inquiète pas. On va faire simple.
Non, ça, c'est mon job.
Voilà. Oui. Moi, je me fais plaisir. J'ai mon matériel, mais toi, non. Toi, t'inquiète pas. C'est la pièce qui compte, hein, après tout.
Et puis, tu as eu aussi envie de partager ton expérience de podcasteur, puisque tu as créé aussi de la formation autour du podcast, Let's Podcast.
Oui.
À partir de quand tu t'es dit, je vais transmettre ce que moi j'ai vécu aussi après mes galères d'expatrié, mes galères de podcasteuse?
Il y a un an, en fait, une amie expatriée, entrepreneur, qui m'a dit, moi j'aimerais bien créer mon podcast. Et du coup, j'avais commencé un peu à l'accompagner en coulisses et je me suis dit, mais mince, pourquoi je le créerais pas, quoi? Pourquoi je créerais pas cette formation pour permettre à d'autres vraiment de passer à l'action? Donc oui, Let's Podcast, ça fait un an, ça fait déjà une dizaine de personnes formées. Donc, un grand plaisir, voilà, d'avoir créé cette formation pour permettre à d'autres vraiment de prendre le micro et de s'exprimer sur ce qu'ils ont envie de partager. C'est génialissime.
Et c'est une manière aussi pour toi de te faire un revenu, parce que est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que le podcast, c'est ton activité principale? Comment ça se passe pour toi?
Ouais, alors ça me permet de me rémunérer un petit peu. Ça permet de compléter aussi la rémunération par rapport au podcast, parce que j'ai commencé à le monétiser aussi un petit peu avec des épisodes qui sont dédiés à des entreprises qui visent les expatriés. Et puis, des publicités en pré-roll, donc en début d'épisode. Donc, oui, c'est un revenu complémentaire, ouais, ça c'est certain. Et puis, c'est tellement chouette de transmettre et de voir que les gens, grâce à ce qu'on leur a transmis, arrivent vraiment à passer à l'action, quoi. Parce que la technique, c'est un frein pour beaucoup et ça ne devrait pas l'être. La technique, ça devrait nous servir, pas nous asservir. Et ouais.
Oui, souvent, c'est aussi une excuse. C'est un peu comme la création d'entreprise. On dit j'ose pas en parler tant que j'ai pas ma carte de visite, mais en fait, tu peux quand même parler de ta boîte avant d'avoir ta carte de visite. Là, c'est j'ai pas de micro, je peux pas le faire.
ouais, c'est ça. Ouais. Oui, souvent les gens y croient. Ok, alors j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le micro. Ouais, mais ok, mais la phase d'après, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais pour passer à l'action? Et donc, moi, dans ma formation, j'ai créé donc 7 modules qui sont organisés de manière logique. On va de l'idée jusqu'à la diffusion de son podcast en passant par le montage audio avec 50 vidéos. Donc, j'ai fait ça de manière très, très studieuse, très sérieuse pour permettre aux gens de passer à l'action. Et c'est génial. J'ai eu comme cliente une coach en formation interculturelle. Et alors, mais en technique, c'est terrible. Elle connaissait, mais absolument, mais à rien du tout, quoi. Et c'est une telle fierté qu'elle ait pu vraiment créer son podcast. Elle y prend un plaisir dingue. Donc ça, c'est chouette. C'est pas que pour les geeks.
Ce n'est pas que pour les geeks. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une geek. Et ça fonctionne. Et tu parlais de publicité en pré-roll. C'est pareil, ça a été difficile pour toi de passer cette étape-là. Moi, j'avoue que je me pose la question aujourd'hui. Et comment tu arrives à être sûr que les publicités qui sont diffusées correspondent aussi à ce que toi, tu as envie de diffuser comme valeur ou des choses comme ça?
Ouais, alors ça, c'était vraiment une décision très difficile. Hein. Ça fait qu'un mois qu'il y a de la publicité sur le podcast. Donc, je suis encore en test et je me réserve le droit de l'enlever quand je veux. Et puis, j'ai mis du temps aussi à choisir le prestataire. Parce que moi, donc, comme je le disais, ça fait déjà bientôt 4 ans que j'ai créé mon podcast. Donc, tous les hébergeurs et les plateformes qui permettent de monétiser son podcast à la française n'existaient pas. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de changer d'hébergeur. Je suis sur Blubbery. Et donc, j'ai fait appel à Audion qui propose aux podcasteurs de mettre de la publicité sur les podcasts. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Enfin voilà, j'ai vraiment creusé la question pour être sûre que ce soit pour être sûre de leur confier mon podcast, parce que j'étais un peu échaudée. Tu as dû entendre et les auditeurs qui nous écoutent aussi l'affaire Magellan, où l'application Magellan a pris le flux des podcasts. Indépendant pour avoir une offre extrêmement riche pour ensuite vendre leur abonnement. Et aujourd'hui, on n'y est plus sur Magellan.
Finalement, c'est complètement autre chose.
Donc, on se dit quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui profitent de la richesse, de la variété de tous ces podcasts indépendants. Donc, j'avais vraiment... envie de faire attention et surtout au-delà de se dire est-ce que je le fais ou pas, par respect aussi pour ses auditeurs, hein, j'en ai pas parlé, mais j'ai demandé aussi à mes auditeurs via newsletter qu'est-ce qu'ils en pensaient, et c'était très positif le feedback que j'ai eu. Ils disaient écoute, évidemment, parce que j'avais mis un Tipeee en place et ça a fonctionné un petit peu mais pas énormément. Je dis, mais on comprend que tu passes beaucoup de temps, tu nous apportes énormément de valeur, mais de la pub, il n'y a pas de souci, quoi.
Donc, les auditeurs sont conscients du temps qu'on passe, que tu passes sur la production d'un épisode.
Ouais. Et ça fait plaisir. Enfin, toi, ça doit être pareil. Chaque retour positif, ça nous booste pour pouvoir continuer. De se dire, si on donne du peps et de l'énergie, ne serait-ce qu'à une personne et du réconfort, c'est génial. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de se dire est-ce que je le fais ou pas par respect pour mes podcasteurs au niveau éthique, c'est aussi d'atteindre cette audience qui va pouvoir attirer les annonceurs. Donc à partir du moment où j'ai atteint les 1000 téléchargements par épisode, là je me suis dit je commence à être crédible, je vais pouvoir à la fois passer en direct, parce que j'ai 3 manières de monétiser. Donc j'ai la publicité automatique en pré-roll. Je fais du host read, c'est-à-dire que je lis les publicités en début d'épisode. Par exemple, j'ai fait la promotion d'une application Neveo, qui est un journal familial mensuel qui est fait à distance et ensuite envoyé aux proches. Donc, ça a du sens pour moi, ça a du sens pour mon audience. J'ai testé le service, j'y ai trouvé bien, donc j'en ai fait la promotion. Donc, ça, c'est le deuxième moyen. Et le troisième moyen, c'est des épisodes que je dis, moi, sponsorisés, l'équivalent d'un article sponsorisé, si tu veux, sur un site, où là, je vais consacrer un épisode en entier sur, pour un annonceur. Par exemple, les cours Sainte-Anne, des cours à distance pour maintenir le français à ses enfants. Quand on est à l'étranger, on n'a pas forcément l'école française. On met les enfants à l'école locale, c'est mon cas. Et du coup, bah, on fait des cours français à la maison. Donc, ça, c'est plus rémunérateur, forcément, de passer en direct. Mais ça prend un temps fou. Et puis, il faut relancer les gens pour nous payer parce que forcément, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Ils rechignent un peu à nous payer.
Donc, ça veut dire que tu as dû créer une entreprise et...
Oui, moi, derrière, je suis en auto-entrepreneur, oui.
Tu parlais de ton audience, de la newsletter. Est-ce que tu connais un peu ton audience? Est-ce que tu suis les stats à fond tous les matins, 10 fois par jour? Tu te connectes pour savoir combien tu as d'écoute ou est-ce que tu as réussi à, peut-être à prendre un peu de distance avec ça?
Oui, les deux premières années, je regardais, mais c'était surtout la provenance en fait, des pays qui m'intéressaient parce que du coup, je vise tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais toucher les expatriés à travers le monde. C'est-à-dire que ceux qui m'écoutent sont à l'étranger et je leur apporte du réconfort dans leur expatriation. Et en fait, ce sont les gens qui sont en France et qui veulent partir qui m'écoutent le plus. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai pu vraiment sûrement attirer plus d'annonceurs en ayant ça en tête. Donc, non, je ne regarde plus trop. Les premières années, je regardais. Maintenant, on va dire les deux premières années, maintenant, je regarde plus vraiment, sauf quand je dois rendre compte à un annonceur pour lui dire, voilà, ça fait tant de téléchargements, quoi.
Oui, quand même. Donc, ça passe au bout d'un moment, l'histoire des stats.
Ouais, non, mais c'est une vraie question, parce que tu vois, les gens que j'accompagne, ils se disent, ah mince, comment je peux avoir plus d'audience? Comment je peux avoir plus d'audience? Et dans ma formation, c'est ce que j'apprends en première étape, c'est, mais d'abord, pourquoi vous le faites? Et c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube aussi. Vous verrez une autre facette de moi un peu plus rigolote sur ma chaîne YouTube.
On verra ton visage.
Voilà, aussi, surtout. C'est pourquoi on le fait. On n'est pas des moutons, quoi. Il ne faut pas faire les choses juste parce que c'est tendance. Il faut le faire parce qu'on a, un message fort à faire passer, parce qu'on a envie de mobiliser les gens derrière. C'est super important parce que si tu regardes que les stats, c'est pas ce qui va t'apporter du bonheur au final si ton pourquoi n'est pas fort.
Non, au contraire, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ça apporte plus de stress qu'autre chose.
Exactement. Je m'étais rendu compte qu'en fait, je diffuse 2 épisodes par mois. Sur un mois, on va dire un tiers, ce sont des épisodes réécoutés. Quand même.
C'est énorme.
Donc, c'est important. Sur 3 à 5 000, ouais, c'est quand même pas mal.
Ouais. Et est-ce que quand tu choisis tes invités, tu regardes aussi la communauté qu'eux ont de leur côté ou ça ne fait pas partie de...
Ah oui, je suis tombée sur le piège. Je suis tombée dans le piège de choisir un invité star pour voir si ça rapportait gros. Mais non, ça ne rapporte pas gros. Donc, ne le faites pas pour ça. Non, mais par exemple, tu vois, j'ai interviewé Julien Fallu. Donc, du coup, je leur fais de la pub alors que l'épisode n'était pas sponsorisé. C'était l'époque où je n'arrivais pas à avoir confiance en moi pour vendre... mes épisodes. Non, c'est un gars, je me suis dit, bon, il va me rapporter de l'audience. Et il m'a dit, écoute, on fait un échange de visibilité, c'est gagnant-gagnant. En fait, c'est pas gagnant-gagnant du tout, parce que je lui apporte...
Est-ce qu'il a joué le jeu déjà?
Ouais, non, oui, il a joué le jeu. Il a brisé l'armure à la fin, il y a eu la séquence émotion et tout. Donc, franchement, c'était une belle interview. Je lui avais demandé, est-ce que... Pourquoi finalement, pour toi, finalement, c'est où chez toi? Il disait, bah, c'est avec ma femme et ma fille, et c'est ici, à l'île Maurice. Donc, c'était beau. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pensais à attirer beaucoup de monde, et en fait, non. Ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment le faire pour le contenu que la personne va vous apporter. Par exemple, j'ai interrogé Alexandre Dana, que tu connais peut-être, qui est donc le fondateur de Live Mentor. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui écoutent le podcast, qui entreprennent à l'étranger. Et j'ai eu des retours super positifs de cet épisode parce que ça a apporté de la valeur. Donc vraiment, c'était une sacrée expérience parce que j'étais super intimidée, j'avais préparé toutes mes questions. Et là, le gars me dit, ça va durer combien de temps, Christina? Parce que j'ai que 30 minutes.
ça fait mal, ça.
Et donc, au final, j'ai dû improviser. C'était chouette. Et les questions que j'ai improvisées, eh ben, c'était les meilleures. Donc, il faut toujours garder quand même une dose d'improvisation. J'y travaille. Hein. J'ai toujours ma
petit coup d'adrénaline qui fait du bien.
Ouais, mais même pour lui, c'est plus intéressant pour la personne star qu'on interroge parce qu'ils ont l'habitude toujours de répondre au même truc.
Oui, c'est ça aussi. C'est que souvent, moi, j'ai pas eu beaucoup de stars, mais quand je faisais des interviews pendant le Festival d'Avignon, les têtes d'affiche, tu sens qu'elles ont l'habitude. Donc, tu sens que leur discours, ouais, il est très cadré, répété. Et d'arriver, quand tu arrives à les faire sortir de ça, ouais, et justement à changer un peu, là, ça, c'était la victoire.
Je vais me poser la question, c'est quoi un entrepreneur heureux? Il a fait... Ah. Il a vraiment dit ça, tu vois. Je l'ai laissé au montage. Parce que...
Super. Bah oui.
Ouais. Mais... C'était quelque chose, cet enregistrement. Donc, ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort, des fois, comme ça. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Les gens, ça flatte leur ego. Donc, au pire, ils nous disent non. Hein. Mais au niveau des chiffres, non, ça n'a pas changé plus que ça. Par contre, là où le podcast a décollé, c'est quand j'ai eu un article sur Courrier International.
Ah oui.
Là, oui.
Ah oui, mais en même temps... C'est pas le petit média quand même.
Voilà, là j'ai eu un portrait sur Courrier International. C'était pas genre la petite citation, les podcasts à écouter cet été sans sortir de son transat. Non, là c'était vraiment chouette. Et là oui, il y a eu un pic.
Comment t'as réussi à avoir ça alors?
Au culot. Alors au départ, je suis passée par. j'ai trouvé l'adresse mail de la rédac chef, mais qui m'a complètement ignorée parce que c'est une question de réseau finalement, c'est terrible. Et moi, au fond de ma campagne anglaise, ben, du réseau, j'en ai plus beaucoup en fait. Et donc.
C'est plus compliqué.
Et donc, non, j'avais laissé un commentaire sur un article, un commentaire constructif en parlant de mon podcast. Et résultat, une stagiaire journaliste m'avait recontactée. Donc, merci les stagiaires journalistes. Vous faites un boulot super.
Et tu gardes contact avec le système des... Enfin, avec les podcasts français. Je sais que tu n'iras pas cette année, mais en tout cas, normalement, tu vas au Paris Podcast Festival. Ouais. C'est important pour toi de garder ce contact-là?
Oui, bah oui. Énormément. Déjà, de rencontrer d'autres podcasteurs. Ça fait énormément de bien. Te rendre compte que des fois, on te confond avec un autre podcast, ça, c'est assez pénible. Marjorie, si tu m'écoutes, donc Marjorie qui fait le podcast Ex-Expat, non mais il n'y a pas de malaise parce qu'on n'est pas, enfin voilà, on s'est appelé, enfin quand elle a créé son podcast, je lui ai dit c'est génial que tu l'aies fait parce que j'y avais pensé et elle fait de la super qualité, maintenant elle a monté son agence, voilà, j'ai beaucoup de sympathie, surtout de respect pour le travail qu'elle fait, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, déjà pour rencontrer d'autres podcasteurs. Parfois, bah, voir en fait, tester les réactions des gens s'ils te connaissent ou pas, ou s'ils te confondent avec un autre podcast, hein, c'est pas grave, du coup tu rectifies, tu dis non, moi c'est ceux qui partent, hein, c'est pas ceux qui reviennent. Et puis aussi pour rencontrer des auditeurs. L'année dernière, j'avais mis sur Facebook une petite note pour dire que j'étais au Paris Podcast Festival et j'ai un auditeur qui vit au Luxembourg, qui m'a dit, Christina, moi, j'y serai à ce moment-là, parce que moi, en fait, j'ai de la famille sur Paris à la base. Ça me dirait trop de te rencontrer si t'as 5 minutes pour boire un café. Et c'est super. Voilà. Donc, j'avais pas... Ouais, voilà. Je n'ai pas eu la chance d'avoir ma rencontre avec mes auditeurs au Paris Podcast Festival. Mais voilà, ça valait le coup quand même. C'est chouette.
Parce que tu arrives à créer du lien justement avec tes auditeurs, tu as une newsletter, une chaîne YouTube, mais est-ce que tu arrives à avoir des échanges? Est-ce que les réseaux sociaux, tu dis que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui prend énormément de temps, enfin je suppose pour toi aussi, comme nous tous. Est-ce que ça te permet justement d'avoir cet échange-là aussi avec tes auditeurs?
Ouais, les échanges, c'est surtout je me rends compte, par mail, quand je laisse des petits messages sur mon podcast, du coup, en disant... ben, si vous avez des idées, des personnes à interroger ou donnez-moi un feedback sur le podcast, vraiment, ça me ferait plaisir parce que j'y passe tellement de temps et souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte. Et ouais, encore hier, j'ai reçu, alors c'est pas tous les jours, hein, mais hier, j'ai reçu un message super positif d'un retraité en plus. Suite à mon envoi de newsletter. Donc oui, newsletter, c'est bien. Mais ma newsletter, je l'envoie une fois par mois. Et c'est plutôt des contacts mail. Et puis, je garde le contact avec les anciennes personnes, enfin, les personnes que j'ai interrogées. Je prends des nouvelles de temps en temps. Et c'est une grande communauté, les expatriés. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on ressent loin de tout le monde, loin de la France.
Effectivement. Et puis, j'écoutais ton dernier épisode, alors pas le dernier, l'avant-dernier sur le Sri Lanka.
Ouais.
Et tu disais qu'effectivement, c'était important, et encore plus dans cette période-ci, que les expats travaillent ensemble et se soutiennent. Parce que, ouais. Parce qu'effectivement, vous vivez des choses qui sont, même si c'est dans des pays différents, qui sont des choses communes.
Ouais.
Et comme les podcasteurs, quand ils échangent, c'est pareil. On a tous des podcasts différents, mais en fait, il y a quand même des questionnements qui sont communs. Donc, je suis assez d'accord avec ce message-là. Ouais.
J'avais fait un podcast spécial sur justement l'épidémie de Covid-19, comment il s'était vécu par les expats à travers le monde. Et puis, il y avait vraiment le souci de l'éloignement avec les proches qui est très présent. Et souvent, on aurait tort, si t'es pas contente, tu rentres. Hein. Oui, c'est pas si facile.
Ouais, ça se fait pas comme ça.
Ça se fait pas comme ça tout de suite. c'est très riche de rencontres et de développement personnel surtout. C'est vraiment un accélérateur de développement personnel, cette expatriation et le podcast aussi. Mmh.
Justement, toi, en tant qu'auditrice, quel type d'auditrice de podcast tu es ? Qu'est-ce que tu écoutes ?
Je suis une auditrice de podcast très infidèle. Je suis très fidèle en amour et en amitié, mais alors le podcast, je suis un peu une zappeuse. C'est terrible. C'est au gré des réseaux sociaux. C'est pas bien. Je suis pas très fidèle.
C'est pas grave.
J'ai un peu honte quand même. Non, mais j'ai écouté des épisodes de La Poudre, mais ça va être en fonction des invités qui vont me parler, quoi. Les couilles sur la table, j'adore ce podcast parce que j'ai deux garçons et pour moi c'est important qui développe des valeurs féministes, on va dire. En ce moment je découvre Gloria Mama, qui est un podcast sur la maternité à l'étranger. La personne qui l'anime et qui l'a créée, elle a eu beaucoup de fausses couches, elle a eu beaucoup de difficultés à avoir son enfant et elle a voulu en parler avec l'angle de la partie à l'étranger. Donc c'est un podcast très intéressant. Je vais sûrement la recevoir bientôt. Spoiler.
Oui. Toi, ça a toujours été tous les 15 jours ou tu t'es posé la question du rythme ?
Ouais, alors je continue à me poser la question du rythme. Alors, j'avais fait une pause quand j'ai créé ma formation parce que 50 vidéos enregistrées à monter, le curriculum, tout ça, c'était assez long. Donc, je suis passée en format mensuel et là, j'y pense, mais... C'est tellement, ça m'apporte tellement, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pour dégager du temps, j'aimerais tenter l'aventure voix off. J'aimerais essayer de devenir voix off. Donc ça, c'est un autre projet. Donc on n'a pas des journées extensibles.
Ben non, ouais. Oui, mais c'est le problème, en fait. C'est que comme c'est une passion, et moi, c'est la même question que je me pose, c'est que ça m'épuise de le faire toutes les semaines. J'ai mon métier à côté. Mais d'un autre côté, quand j'ai pas d'interview pendant un moment, que j'enregistre pas, je suis malheureuse, ça me manque.
Ouais, c'est ça, c'est une dose d'adrénaline en fait. C'est...
Ouais. Et est-ce qu'il y a un ou une invitée que tu as dans ta liste mais que tu n'as pas encore contacté, que tu rêverais d'avoir ?
Ben non, parce que j'ai osé en fait. Ah non, j'adorerais. Non, mon trip, ce serait. Vous allez rire. Diams, elle est expatriée, enfin elle a émigré, elle est partie. Elle a monté son agence de voyage. Je me suis dit, est-ce que tu interviewerais pas Diams. Alors, c'est pas un rêve.
Ah, je savais pas qu'elle avait fait une agence de voyage.
Ouais, ouais. Donc, c'est un peu un défi, tu vois. Ou d'interviewer un footballeur français qui vit dans un club à l'étranger. Quelque chose de différent. Peut-être la partie star que j'ai pas... Parce que c'est un défi aussi pour eux. Enfin, ils doivent quand même se réinventer ailleurs. Je sais pas. Exister sans les photographes autour. Alors, je parle pour Diams, mais... ouais. Je sais pas, peut-être, mais non. J'ai pas tous ceux qui sont sur ma liste. Je suis contente de les compter sur ma liste. Je vais les interviewer.
Chouette.
Mais si tu as des suggestions, tu.
Alors là, comme ça, non, j'y avais pas pensé. Ça y est, c'est toi qui me poses les questions. Voilà. Tu as réussi à retourner là.
Pardon, pardon, reprends le fil de ton interview.
Non, il n'y a pas de souci. Et alors, est-ce que tu as pensé un jour à faire ton podcast en anglais ou dans une autre langue?
Non, je ne suis pas assez... ça m'est traversé l'esprit, mais ce serait... Tu vois, la dimension plaisir est vraiment importante pour moi et je pense que ça doit l'être pour tout le monde. Et là, ce n'est pas un défi genre chouette. Allez, je me lance, je me jette à l'eau. Là, c'est... Pff, oh non.
Oui, donc non. Faut pas le faire.
Voilà, exactement. Il faut aussi s'écouter. C'est pas la peur, c'est juste que non, j'y prendrais pas de plaisir. Ce serait pas agréable pour les gens, je pense non plus. Non, je reste dans ma zone de confort là-dessus.
Non, mais si tu le sens pas, effectivement. Non, mais parce que ça pourrait, en anglais, ça pourrait te permettre de toucher encore plus de monde.
Mm.
Mais non.
Mais non, parce que les chiffres, non.
Très bien, tu es alignée
ça.
Sur...
Oui, je suis très alignée, oui.
C'est peut-être ça la clé, en fait, d'un bon podcast qui dure.
Oui, bah oui, parce que si tu n'y crois plus, forcément, tu vas abandonner, donc...
Ouais, donc le jour où tu prends plus de plaisir, tu t'arrêtes, tu fais autre chose.
Ouais, je pense que c'est la notion de plaisir et puis la notion aussi de tourner une page. Je pense que j'ai créé ce podcast parce que pour répondre à ce besoin ou cette frustration que les gens me cataloguaient ou cataloguaient en général les expatriés et que j'entendais pas la voix des difficultés que les expatriés pouvaient rencontrer à travers le monde. Donc je l'ai fait. Le jour où je rentre en France, ou alors je me dis ben je suis une immigrée comme les autres finalement, ou que je finisse ma vie, bah, je l'arrêterai, ouais. Pour l'instant, je me sens encore expat.
T'en feras un autre.
Ouais, ouais. Ouais, non, mais ça m'a traversé l'esprit, tu vois, par exemple, créer un podcast sur la culture portugaise, à transmettre justement aux personnes qui ont la même origine que moi pour mieux connaître, en fait, le pays de nos parents, quoi. Ça, c'est un beau projet, par exemple.
Ouais, c'est vrai que c'est une culture qui n'est pas très, très connue.
Ouais, et pourtant on est nombreux.
Hein. Pas chez Zenata, mais.
Ouais, pourtant on est nombreux en France, mais ouais, on est parce qu'on est discret. On est comme ça.
Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, donc tu ne fais pas partie de ces podcasteurs qui développent 10 projets de podcast, qui en ont plein, et... parce qu'il y a ça aussi dans la communauté podcast.
Ouais, non, pas encore. Pas encore. Mais ça me titille.
T'arrives. À suivre alors.
À suivre, ouais.
Ben merci Christina.
Merci Marie
pour cet échange. En tout cas, merci pour ton podcast. Moi, j'avoue, j'ai été expatriée un an, mais pas vraiment. C'était pour faire des études, donc c'est différent. Et en fait, j'adore l'écouter juste pour voyager. Souvent, je saute sur l'épisode quand c'est un pays que j'ai visité en tant que touriste, notamment le Sri Lanka. Voilà, c'est un pays que je connaissais, donc ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Mais voilà, c'est même pour les personnes qui ne sont pas expatriées ou qui ne prévoient pas ça, je trouve que ça donne... une vision juste sur réfléchir à qui on est, où on habite, comment on gère ça et notre différence. Parce que peu importe là où on est, on est rarement basé là où on est né et sans bouger. C'est quand même de plus en plus rare. Mm. Donc rien que pour ça, je trouve que l'approche des expats est intéressante après pour se poser des questions soi-même sur sa culture et son identité.
Oui, c'est ça. Parce qu'on est le fait d'être confronté en fait, aux différences culturelles, nous fait réfléchir sur nous, qui on est et quelles valeurs on porte. Ah bah eux, ils font ça comme ça. Ah, c'est intéressant. Et du coup, ça nous fait évoluer. Ou alors, ah bah ils font ça comme ça. Bah non, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment on te retrouve, comment on t'écoute, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, tout ça?
Oui. Alors, pour écouter Expat Heroes, eh ben, il y a le site internet où vous avez toutes les interviews, bien sûr. Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Voilà. Expat Heroes, vous n'allez pas avoir de mal à l'écouter où vous soyez. Et puis, la formation Let's Podcast, si vous avez envie de créer votre podcast ou si vous êtes podcasteur et vous avez des gens qui vous disent « Mais comment t'as fait ?» Eh bien, vous lui dites « Allez voir, va voir Christina. » Elle a une formation qui s'appelle Let's Podcast. J'ai une chaîne YouTube aussi pour permettre à d'autres de créer leur podcast à distance.
Eh bien, super. Merci. Puis peut-être aussi de faire partie de la communauté Podcast Makers où on échange aussi toutes les deux et qui permet d'échanger entre podcasteurs quand on s'est lancé dans l'aventure.
C'est super sympa.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.